s'en va dans Luc 15. On continuera ça après-midi. Merci pour votre patience. On va lire le passage. Aujourd'hui, on considère le fils aîné. Puis je l'ai même confessé dans ma prière. Des fois, j'ai plus de misère avec le type de gens fils aîné que fils prodigue. Parce que fils prodigue, il fait pitié, il est tout croche. Tout ça. Mais fils aîné, des fois, il est tannant. Parce qu'il te regarde, puis il te condamne. Puis il te dit comment t'es un pas fin, puis t'es un pas bon. Mais j'aime pas vraiment ça. Quand quelqu'un me dit ça. Mais Dieu aime aussi les fils aînés, les pharisiens. Puis... Alors, c'est ce qu'on considère pour terminer notre temps ensemble dans la parabole qu'on considère depuis le début du mois de mai. En ce dernier jour de mai, alors on peut lire au verset 28. Vous êtes là, Luc 15, 28. Ici, c'est le fils aîné qui dit, où est-ce qu'on lit? « Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen, Seigneur, on te remercie pour ces paroles qui sont de toi. Pour nous ce matin, tu veux nous bénir, nous donner de ta bonne main, pour que ces vérités, Seigneur, portent du fruit à ta gloire. On veut donc simplement, Seigneur, s'ouvrir à toi, être disposé pour tout ce que tu veux nous communiquer, faire, nous montrer, Seigneur. Brise toute résistance, toute pensée qui n'est pas conforme à l'œuvre parfaite de Christ. Et Seigneur, on s'en remet à toi pour tes plans bienveillants, tes desseins. Avec ce temps qu'on prend ensemble maintenant, on te le demande au nom de Jésus. Amen. On pourrait dire pour des gens qui... en tout cas, d'habitude, on dit la parabole du fils prodigue, puis souvent quand on parle du fils prodigue, c'est qui vole la vedette? Ben, c'est le fils prodigue. Mais en plus, on peut dire que quand on lit ça, c'est un peu dur pour nous de voir une attitude comme le gars, le fils aîné, on dit « Ah, il est dur de cœur, il veut rien savoir. » Parce que on a un peu un parti pris pour le fils prodigue, n'est-ce pas? Est-ce que je suis seul à l'admettre là, ce matin, là, s'il vous plaît, là? Moment d'honnêteté, bon, il y en a un. Maxime, on est deux à trouver que le fils prodigue. Et donc, oui, c'est ça, mais on va essayer d'imaginer un peu la situation dans un contexte différent. Mettons, hein, ici, on fait ça de nos jours, des fêtes, on a une fête de famille. Vous avez de la famille, puis là, mettons la fête de quelqu'un, puis là, un gâteau, puis ça, puis yeah, tout le monde est content pour une fête. Mais il y a quelqu'un qui baboune dans son coin, puis il n'est pas content. Puis, à un moment donné, on pourrait dire, ben tant pis pour lui, tant pis pour elle. Mais au lieu de l'ignorer ici, la personne, l'autre, la personne qui organise le party, ben, ça va voir la personne, puis il dit, hey, ta place est ici avec nous, on veut t'inclure, t'es pas rejeté. Tu fais partie de la gang, de la famille. Et c'est l'attitude ici que Dieu veut démontrer qu'il y a envers les récalcitrants, envers ceux qui babounent dans le coin, envers ceux qui ne sont pas comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui essaie de demander pitié. Non, lui, il ne veut pas de la pitié. En fait, il n'y en a pas ben ben. Et c'est l'attitude ici du fils aîné et c'est aussi l'attitude qu'on voit du père envers lui. Et je pense que pour nous, approchant un texte comme ça, on peut dire, Dieu, sonde mon cœur par rapport à toutes les sortes de personnes que tu mets dans ma vie. Parce qu'il y a des gens pour lesquels on est plus enclin de façon naturelle, et donc on a plus de misère. Et Dieu veut se manifester à travers toutes ses relations. Il veut manifester sa bonté, son grand salut à travers toutes ses relations. Donc, on considère aujourd'hui la bonté de la patience de Dieu. La bonté de la patience de Dieu. Parce que On est confronté à ce gars qui n'est pas facile à aimer, puis Dieu nous met des gens comme ça. N'avez-vous dans votre vie des gens qui sont plus durs à aimer? Que tu sais que c'est moins naturel, ça passe moins, le courant passe moins. Ceux envers lesquels on peut se sentir facilement de justifier en disant ou en pensant, Il ne mérite pas ma patience puis ma bonté. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas la grâce que je passe au-dessus de cette attitude désagréable. Mais Dieu qui vit et qui demeure en nous. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vit et demeure en vous. Il n'y a pas la même disposition que celle que je viens d'écrire, qui est une disposition de la chair. Parce que la chair voudrait répondre, hein, du tac au tac, répondre avec ce que la personne mérite. Et donc, ce texte nous démontre l'importance de ne laisser personne derrière, de ne négliger personne, car Dieu aime toutes les sortes de personnes. Dieu aime les maganés, comme au verset 1 et 2, qui étaient attirés vers Jésus, mais il aime aussi les pharisiens. D'ailleurs, on le voit avec Nicodème. Joseph d'Arimathée aussi, qui était dans le club de ceux vraiment plus la haute société de l'époque. Il les aimait. Il voulait les sauver. Puis il les a sauvés. Et il plaide aussi pour déborder de sa grâce et de sa bonté sur eux. Oui, oui, à travers nous. Dieu veut que là où le péché de l'autosuffisance, de l'orgueil, là où ce qu'il surabonde, que sa grâce surabonde aussi envers ces personnes-là. Donc, on voit ici dans notre texte trois plaidoyers de la bonté, de la patience de Dieu. Vous allez voir le Père qui plaide. D'abord, au verset 28, on a le plaidoyer du rapprochement. Verset 28, le fils aîné se mit en colère et ne voulut point entrer. J'ai perdu ma ligne. Son père sortit et le pria d'entrer. On a un contraste ici, hein? Entre la colère du fils, qui ne veut rien savoir, il ne veut même pas rentrer, puis le père qui plaide. C'est le plaidoyer du rapprochement. Non, non, on ne veut pas te laisser dehors. Viens, joins-toi à nous. Ici, ça nous dit dans la version Louis II, il le pria, on pourrait dire aussi le supplier. En anglais, on dit « entreat ». L'idée, c'est qu'il insiste d'une manière douce, mais ferme, à ce qu'il se repente. Il l'appelle à la repentance, c'est ce qu'il fait. Reste pas dans cette attitude de dureté de rester dehors. Repends-toi, joins-toi à nous, joins-toi à la réjouissance. Il demande à son fils aîné un changement de disposition. En fait, c'est le plus grand besoin de ce fils aîné, que le cœur dur, d'avoir maintenant un cœur humble qui se réjouit. Le problème de la famine spirituelle du fils aîné, c'était pas la même que le fils prodigue qui lui était dans une famine physique. Lui, il avait une famine dans son cœur, il avait pas de joie. Il n'y avait pas de grâce dans son cœur pour les gens qui avaient de la misère à aimer. Il devait se repentir en s'humiliant et en reconnaissant la dureté de son cœur et aussi son aveuglement spirituel. Mais comprenez-le un peu. On peut-tu avoir un peu de sympathie pour le fils aîné pour un petit instant? OK? Ça semblait quand même être du rejet de la part du père. C'est comme, toute l'attention est sur celui qui a tout fait, tout croche. Puis là, c'est pour lui que vous célébrez. Puis, tu sais, mettez-vous à la place, pareil. C'est comme, hey, c'est quoi cette affaire-là, là? On dit en anglais, I didn't sign up for this. Tu sais, je ne m'attendais pas à que ça vire de même, cette affaire-là, là. OK? Puis c'est comme aussi si le père, dans le fond, donnait toute l'attention à celui qui a tout scrappé. Puis lui, dans le fond, il devait bien se sentir négligé, parce qu'il revient comme ça, puis là, tout le monde, c'est le parti, puis tout. Ouais, puis moi, là, tu sais, j'étais là dans le champ, justement, en train de travailler, puis comprenez-vous, on peut comprendre un peu la main. J'essaie de me mettre à la place du fils aîné. Il y avait une certaine rationalité à ce qu'il y avait là, à son attitude. Puis, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'en fait, de la même manière que Dieu a envoyé une famine pour ramener le plus jeune, bien là, Dieu permettait ça, ce sens un peu d'injustice, de négligence, pour ramener le plus vieux, pour qu'il voit son besoin, qu'il voit la dureté de son corps, qu'il voit son état spirituel. Prenons l'exemple de quelqu'un, et ça peut arriver, que vous avez comme ça en ce moment, quelqu'un dans votre vie comme ça, ou qui a passé à travers votre vie, peut-être qu'il est plus éloigné maintenant, mais bon. Il y a des gens, savez-vous, qui sont très régimentés. Des gens avec un fort sens de la justice, ça marche de même, OK? On va dire aussi légalistes, OK? Et avec lesquels on peut avoir beaucoup de difficultés à interagir. Pourquoi? Parce qu'ils voient... Waouh, ça, c'est la colère de Dieu qui s'exprime. Hey, ça commet. Seigneur, s'il vous plaît, garde l'électricité. OK, revenez avec moi, tout le monde, revenez avec moi. Quelqu'un okay, avec qui on a de la misère à interagir, pourquoi? Parce que il voit tous les problèmes des autres, il ou elle voit tous les problèmes des autres, mais est complètement aveugle par rapport à ses problèmes. Puis même au mal que cette personne-là fait, que son attitude envers les autres fait. C'est blessant d'être avec du monde de même. C'est pas du monde facile à dealer avec. C'est des gens intransigeants puis blessants. Vous savez de quoi je parle. Puis ces gens-là ne voient même pas le mal qu'ils font, tout l'effet néfaste qu'ils ont sur leur entourage. Autrement dit, on se rebute à la dureté de leur cœur, à leur insensibilité, à la chair. Et notre chair, et l'ennemi aussi qui s'en mêle, ben veut susciter une réponse similaire. Ah ben toi, tu mérites vraiment rien, là, puis... OK, on a le goût de répondre, de rendre l'appareil. Mais Dieu, encore une fois, a une voix différente, celle de l'esprit, de la réponse par l'esprit, de l'esprit de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne les âmes est sage. Et ça ressemble à quoi, ça? C'est un genre de réponse-là, comme dans Proverbe 11, 30, que je viens de vous lire. Bien, comme l'attitude du père ici face au fils aîné. On a une belle démonstration de ça ici, le père. Comprenez que c'est pas comme si on se plaçait dans une position de désespoir, là. Oh, au secours, reviens, puis là, tu sais, comme si, face à quelqu'un qui est méchant comme ça. Parce que je pense pas que c'est la position du père. Il n'est pas désespéré, il faut absolument que tu viennes. Non, non, c'est plutôt la position d'espérer la repentance, d'espérer le meilleur, de voir que la personne est dans un mauvais état spirituel, mais d'avoir l'espoir que Dieu peut virer les choses d'abord. D'avoir de l'amour pour quelqu'un qui est comme ça. Une espérance en Dieu. De supplier cette personne-là de quitter la dureté de son cœur et d'embrasser l'humilité et la foi. Et je dirais que pour ce plaidoyer comme ça du rapprochement, c'est pas le rapprochement de nous, c'est d'abord le rapprochement de Dieu qu'on désire. Mais le deuxième plaidoyer est crucial. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude qui va faciliter à arriver à ce point-là. C'est le plaidoyer de la douceur. Regardez, encore là, un contraste. Verset 29 à 31 nous trace un contraste ici entre le fils aîné et le père. Donc ici, le fils aîné, verset 29, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est lui que tu as honoré, autrement dit. » Écoutez la réponse du père. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Je vois là-dedans ce qui nous est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La vieille Louis II dit « vers l'attente patiente de Christ ». Le Père est patient comme ça, il attend la repentance de son Fils. Avec douceur, la réponse de Dieu ici, du Père, en appelle à une réponse similaire, il est doux envers son Fils. Le Fils aîné est dur, est rude, est méchant. Le Père répond par la douceur. Wow! Ça, c'est une réponse spirituelle. Dans le fond, il exerce la patience face à la dureté du cœur de son fils. Et ça en appelle à l'humilité. Lorsqu'on répond à la dureté par la dureté, ça amène plus de dureté puis de la colère. Mais lorsqu'on répond par la douceur, whoop, ça l'amène à s'humilier. Puis ouais, c'est quoi mon attitude? Je suis donc bien dur de cœur. Il y a de la patience aussi face à l'indifférence. Oui, le fils prodigue s'est repenti et tout, puis il dit « ton fils », puis il ne veut même pas l'appeler son frère. Il est indifférent à la restauration, au retour à la vie de son frère. Et cette attitude du père en appelle à la foi, la confiance dans la grâce de Dieu. Et j'aimerais maintenant regarder un peu ces choses-là, ces versets-là qu'on vient de lire, puis les vérités qu'elles amènent. À la lumière des dommages que l'indifférence spirituelle peut causer, puis regardons nos propres vies, OK? Par exemple, on est entouré de gens perdus, n'est-ce pas? Demain matin, beaucoup vont aller au travail, ils vont être face à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis savez-vous quoi? Des fois, ils sont dérangeants. Des fois, ils peuvent être frustrants. Et des fois, ils sont même choquants. C'est pas facile. Mais quel est leur état spirituel? On peut être avec des fois des chrétiens ou des gens que c'est pas clair qu'ils sont chrétiens ou non, qui professent Christ, mais c'est pas si clair que ça. Mais qui sont méchants, qui ont une attitude repoussante, puis qui sont pas repentants, qui n'admettent pas leur tort. Encore là, quel est leur état spirituel? OK, encore plus proche. Il y a des gens, ça peut être dans le mariage, dans la famille, dans une église comme ici. Des gens qui, clairement, c'est des enfants de Dieu, sont chrétiens, chrétiennes, mais qui nous blessent tout le temps, pareil. Vous savez quoi? Encore souvent avec les mêmes genres de patterns et les mêmes genres de tendances. C'est vrai, ça, hein? Des tendances de, on parlait tantôt de légalisme, d'autosuffisance, d'égocentrisme, de méchanceté. Quel est l'état spirituel? J'amène juste des situations différentes pour amener ce point. Dans chacun des cas, c'est toutes des personnes dans des situations différentes. Des perdus, on n'est pas trop sûr, des enfants de Dieu. Mais le même problème fondamental est là, c'est un état spirituel d'indifférence et d'aveuglement. Et c'est avec ça qu'on a de la misère. C'était ça ici qui arrivait. OK, parce que quelqu'un qui arrive, qui est tout scrap, qui voit son besoin, « Ah, au secours, j'ai que là! » Hey, ça, c'est le fun, c'est un peu comme un cadeau. « Hey, Jésus, c'est la réponse, puis t'en as besoin. » Mais quelqu'un arrive, puis qui est autosuffisant, puis qui a un cœur dur par rapport à Dieu puis aux autres, puis qui ne voit pas son besoin, c'est dur de dire avec quelqu'un de même. C'est pour ça que c'est important qu'on s'arrête aujourd'hui, qu'on considère, parce que ça fait très partie aussi de nos vies, là. En fait, peut-être qu'en proportion, on voit plus des fils aînés que des fils prodigues. En fait, moi, je regarde, tu sais, le ministère de la prison, je vous en parle souvent, je m'assieds beaucoup avec des fils prodigues, mais partout, quand je me promène, il y a plein de fils aînés partout, là. Des gens qui rentrent, qui sortent, qui ont une belle job, puis tout ça, puis la vie est belle, tout, mais ils ne voient pas leurs besoins, puis souvent, ils sont durs envers les autres. Ils sont durs de cœur, indifférents, puis aveugles spirituellement à leurs propres besoins. Comment on deal avec des gens comme ça? C'est ce que notre texte nous amène. Et je pense que quelque chose qui est important, c'est Dieu ouvre mes yeux, malgré comment je me sens, comment ça me dérange, à leur situation, leur état spirituel lamentable. Parce que si je vais amener un point important, la question la plus importante pour moi, là, face à des gens comme ça, des situations comme ça, c'est pas de diagnostiquer la bonne affaire, de trouver le bon problème, puis c'est ça son problème, puis OK. Parce que ça vient centrer sur le problème. Puis ça fait juste souvent, juste encore plus nous irriter. C'est comme, le problème est comme ça, puis là, il devient comme ça quand on focus dessus, puis on essaie de le comprendre, puis on analyse. C'est pas une bonne idée. Puis savez-vous quoi? Peut-être qu'on a un diagnostic exact, peut-être qu'on est complètement dans le champ. Fait qu'on perd notre temps dans les deux cas. Non, le vrai problème, ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui le révèle. Puis il fait une bien meilleure job que nous autres. Que ça soit même avec des enfants de Dieu, des fois, on pense qu'on sait c'est quoi le problème avec quelqu'un, puis... Et nous, il y a des choses que peut-être qu'on ne voit même pas, qu'on n'a même pas tenu dans l'équation, puis que Dieu, lui, est en train de travailler là-dessus. Non. Pour nous, la question la plus importante, c'est ma réponse, est-ce qu'elle est de la chair ou de l'esprit? En ce qui me concerne, c'est ce qui doit vraiment être le focus. Pas le problème, mais moi puis Dieu. Dieu, tu veux me montrer quelque chose là-dedans. Dieu, tu es en train de m'enseigner. J'aime l'expression, c'est, ça te rappelles-tu quand on est allé au Tennessee, « It's a God problem ». Tu sais, on dit, « this guy problem, c'est un problème avec lui. » Non, c'est Dieu qui amène ça. C'est Dieu qui veut révéler quelque chose là-dedans. Il veut en fait se révéler là-dedans. Ça change complètement la perspective. Ça enlève mes yeux de sur moi, sur les autres, puis ça les amène sur Dieu. Donc, c'est quoi ma réponse? Est-ce que moi, je me confie en Dieu là-dedans? savez quoi? Premièrement, que je veux aider ces personnes-là. Je pense qu'en enfant de Dieu, on aime les gens et on veut les aider. Mais d'abord, je dois reconnaître que cette personne n'a pas besoin de moi. Si elle a besoin de quelque chose, c'est de Christ en moi. Puis pour ça, il faut que je réponde par l'esprit. Parce que, avec la chair, j'empêche. Puis savez-vous quoi? Si je fais confiance à Dieu pour ce que lui veut avec ça, c'est Dieu qui va se servir de ça pour amener la personne à la repentance. Tout est de Dieu. Dans le fond, nous autres, il faut juste, Dieu, je te fais confiance, je vais répondre par l'esprit, non pas par la chair. Et Dieu, savez-vous quoi, dans nos vies, là, on l'admet, là, il est patient, il use de grande patience et de miséricorde envers nous, n'est-ce pas? Ben, montrons la même patience envers les autres aussi, même ceux qui sont d'un caractère plus difficile, comme le dit Pierre. Ça m'amène au troisième plaidoyer, non seulement le plaidoyer de la douceur, du rapprochement, le plaidoyer de la douceur, mais pour terminer, au verset 32, le plaidoyer de la faveur. Le père ici qui parle au fils aîné, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Il fallait bien s'égayer. Le fils ici, l'aîné, n'est pas exclu, là. Il fallait bien, c'est comme, « Hey, toi aussi, là, tu devais... » C'est une bonne nouvelle, là. « J'ai donné faveur à ton frère parce que il était mort puis il est revenu à la vie. » L'idée ici du plaidoyer de la faveur, c'est d'inviter à ce qui est meilleur. T'es là puis tu babounes dans ton coin, c'est bien mieux de te réjouir. Regarde là, c'est très favorable, c'est très beau ce qui arrive, là, réjouis-toi donc. Et ça, il y a un livre spécialement dans le Nouveau Testament qui nous parle de bien meilleur. C'est quoi le livre du bien meilleur dans le Nouveau Testament? Yes! Hébreu. Ça parle de l'ancien, puis là, ça compare avec le nouveau. C'est bien meilleur. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, bien meilleur. Puis c'est vrai en tout point. Puis, c'est un peu comme si avec le livre d'Hébreu, du « Hey, les amis, il y a tellement mieux que la vie par la chair, par l'ancienne alliance. On a été favorisés dans le bien-aimé. » En fait, c'est révolutionnaire, spécialement pour l'auditoire de l'époque, les Juifs qui avaient été élevés dans un système basé sur les mérites, où la faveur devait s'acquérir par la performance et pouvait se perdre par le manque de performance. Quand tu dis, hey, non, maintenant tu peux te reposer de toutes ces œuvres-là, de toutes ces affaires-là, parce qu'en Jésus, tu as trouvé le vrai repos. La terre promise, c'était pas avec Josué, ça c'était juste physique. La terre promise, c'est Jésus. En lui, on se repose de nos œuvres. On a le vrai repos. C'est bien meilleur. Parce qu'avec Josué, bien, c'était physique, mais aussi, il avait laissé des ennemis là. En Jésus, on a le repos complet et parfait. C'est bien meilleur. On comprend comme ça que le plaidoyer de la faveur, c'est un appel à plus grand, et je vais le dire, à plus meilleur. Pas pour dire ça, là, ça ne se dit pas. Il y a quelqu'un qui apprend le frère, les cours ne sont pas là. Plus meilleur, ça ne se dit pas. Mais pourquoi? C'est plus grand, c'est meilleur que les ombres de l'Ancien Testament. C'est une expression qui est utilisée dans l'hébreu. Ce n'était que des ombres. La réalité, la substance, elle est en Christ. Pourquoi? Parce que l'Ancien Alliance ne pouvait pas dealer avec le problème d'être en Adam, d'être dans la mort. Ça prenait le dernier Adam. Le deuxième homme, celui qui allait terminer la malédiction qui était en Adam. Et c'est un appel à une relation personnelle, surnaturelle. C'est ça la nouvelle alliance, c'est ça qu'on a en Jésus. Et encore mieux, une relation fructueuse qui porte du fruit, le fruit de l'esprit, et qui déborde dans les fleuves d'eau vive, déborde. Dieu nous appelle à être des chrétiens débordants. Pas forcément d'être débordant. Quand on déborde, je veux dire, c'est pas moi qui... Quand je suis connecté à la source d'eau vive, je peux déborder. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça l'héritage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. La nouvelle alliance. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met ses plus beaux trésors dans des vases très communs. Savez-vous ça? Là, c'est vrai pour les personnes, comme par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, « Nous portons ce trésor de l'Évangile de la gloire de Dieu dans des vases de terre. Ça, c'est nous, les vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est vrai des personnes, c'est aussi vrai pour les circonstances. Des fois, en tant que chrétien, on peut essayer de chercher la gloire de Dieu dans des grands moments époustouflants, puis des « waouh, est-ce que là, tu sais, le feu tombe du ciel, puis tu sais, un peu comme avec Élie, là. » Mais savez-vous quoi? La majorité de nos vies, là, c'est très ordinaire. Je parlais de demain, là. Demain, c'est lundi, là. Puis là, il va y avoir du ordinaire dans notre vie de lundi. Peut-être qu'il va y avoir du extraordinaire, on ne sait pas, peut-être que Dieu va faire de quoi que... Mais là, ce que je veux vous amener, c'est le trésor de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de vivre de sa grâce et d'en déborder, c'est dans l'ordinaire du quotidien que ça se passe. On n'a pas besoin d'attendre un gros show, là, où est-ce que là, tout le monde est rassemblé. Non, non. Dans une rencontre fortuite, dans une circonstance tout ordinaire, Dieu veut nous rencontrer là, puis que là, on déborde, que là, il soit notre joie, puis que lorsqu'il nous met quelqu'un de bien ordinaire, une situation bien ordinaire, que Christ soit là, qu'il se manifeste. C'est comme ça que Dieu marche, la majorité du temps, parce que c'est comme ça que notre vie est aussi la majorité du temps. Et le trésor de la grâce de Dieu, de la vie abondante, se retrouve comme ça, dans les moments qu'on pourrait dire les plus insignifiants ou ordinaires. Mais c'est comme ça que Dieu met de l'avant le fait qu'il est extraordinaire. La toile de fond ne fait que mettre de l'avant le trésor de Dieu. Et ça, c'est notre héritage. L'héritage d'un enfant de Dieu, c'est un héritage qui ne peut se corrompre ni se flétrir. Et pour nous, les enfants de Dieu, l'idée, c'est pas « Ah, Dieu, je veux ton héritage, je vais essayer de l'avoir. » Non, c'est se l'approprier. On l'a déjà, on a tout pleinement en lui. On est héritier, co-héritier de Christ. D'où l'importance tellement, c'est simplement l'action de grâce. C'est sorti ce matin dans la prière avec notre sœur. Dieu, on est tellement béni. Est-ce qu'on en est reconnaissant? Est-ce qu'on a les yeux ouverts là-dessus? Est-ce qu'on vit à la lumière de toute cette grâce que tu nous as faite, dans laquelle nous sommes en Jésus? Bonne matière à réflexion. Parce que le fils prodigue, OK, il s'en est rendu compte, mais le problème du fils aîné, c'est qu'il prenait pour acquis. Il ne s'en rendait pas compte. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu qui vient à l'Église, on peut plus tomber dans l'attitude du fils aîné. Prendre pour acquis. Puis être dababoudé dans notre coin. Au lieu d'être simplement reconnaissant envers Dieu pour sa grande patience et sa grâce. Oui, même envers nous. Et j'aime le fait ici qu'on voit Dieu plaidoyer. On voit Dieu qui plaide. Et on voit ça dans un autre passage du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Je veux amener notre message à une conclusion avec ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, nous plaidons, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus. Maintenant, Dieu plaide pour quoi? Pour restaurer la relation qui était perdue en Éden. Ici, on a l'image avec le fils aîné. Hey, viens-t'en. Ce que Dieu dit à l'humanité, revenez. Ce qui a été perdu en Éden, la belle relation non brisée que j'avais avec vous autres, je suis venu moi-même la rétablir. Elle est brisée par le péché, elle est restaurée en Christ. Mais ce n'est pas tous qui en bénéficient, ou même les enfants de Dieu qui en jouissent pleinement. Et Dieu ne plaide pas parce qu'il a besoin d'amour et il manque d'affection. Non, Dieu est amour. C'est pas parce que Dieu il a un besoin. Non, c'est parce que Dieu en déborde. Il plaide parce qu'il dit, j'en ai tellement, j'en ai plein à donner. C'est comme ça que Dieu nous approche. Je suis une source d'eau vive, je déborde. Venez profiter de cette grâce. C'est ça que Dieu, un matin, veut nous communiquer. Il veut nous montrer comment il est bon, puis sa bonté, elle est patiente. Dieu, oui, aime les pécheurs notoires, comme au début les pécheurs qui allaient auprès de Jésus, mais aime aussi les religieux amers, comme le dépeint le fils aîné qu'on a considéré aujourd'hui. Dieu aime ce monde. Dieu aime son peuple. Le vrai Dieu, celui qui se présente à nous ce matin, dans le texte inspiré qu'on vient de considérer, par son esprit vivant, il veut se donner ici à chacun de nous. Comment? Puis tout ça, c'est quoi le besoin? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de le savoir. Dieu le sait. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il veut simplement, comme lui est ouvert comme ça, qu'on dit « OK, je me jette dans tes bras. » Serais-tu le fun? C'est mon frère Kevin qui m'a déjà fait remarquer ça. On ne sait pas comment ça finit trop avec le fils aîné. Peut-être qu'il s'est repenti, qu'il s'est humilié, comme Nicodème, qui disait « C'est vrai, j'ai besoin de rentrer dans la réjouissance. » On ne sait pas. Dieu a laissé ça ouvert. Mais une chose qu'on sait, c'est que l'invitation était toujours bonne. Et donc, quelle est ma réponse ce matin? Par rapport à mon cœur, est-ce qu'il est dur ou il est humble, indifférent, en confiance avec Dieu? Je ne sais pas, mais Dieu, dans sa patience, a comme but de nous amener à la repentance. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Que Dieu fasse porter du fruit à sa parole. Merci, Seigneur, que c'est ta parole qu'on a considérée. Ce n'est pas la parole des hommes ou des fables habilement conçues, mais c'est le Dieu vivant qui s'est révélé à nous. Et c'est spécial parce qu'on a une image que le Seigneur Jésus a utilisée pour donner un portrait de qui tu es. C'est pour ça que c'est tellement précieux à mon cœur. C'est comme si ça nous ouvre une fenêtre pour voir le Dieu de gloire que tu es sur le Père. Et la vérité, il y en a ici que, de façon terrestre, avec leur Père, c'est pas jojo. Il y a des blessures, il y a des remords, il y a des mauvais souvenirs, des blessures du cœur. Je te prie que ce que tu révèles sur ce que tu es, Seigneur, amène la guérison, la restauration. Que toi, le vrai bon Père, parfait, duquel il ne vient rien de mal, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'on accepte toute cette bonté que tu nous révèles sur toi-même. Puis Seigneur, renverse toutes ces, oui, ces fausses perceptions qu'on peut avoir, qui viennent, oui, de notre vécu sur terre, de ce qu'on a expérimenté, mais qu'on accepte aujourd'hui les choses telles qu'elles sont, telles que tu les révèles. On s'en remet à toi, Seigneur. Fais ton œuvre de délivrance, de salut, d'espérance, de bonté et oui, de réjouissance. On te le demande au nom de Jésus. Amen.